RCF.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront.
Il y a la grande histoire et les petites histoires. Il y a aussi parfois un croisement entre les deux. Je m'appelle Pierre Le Riche, je suis journaliste à RCF en Normandie et je vais tenter au mieux de vous raconter le parcours de deux prêtres, deux hommes engagés très tôt dans la résistance, dont la vie et la mort se rejoignent sur un point, le courage face à l'horreur. Ils sont au moins 138 prêtres religieuses et religieux à avoir été tués pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Calvados. Jean Daligo en fait partie. Anticonformiste, prêtre, peintre, proche des fidèles du diocèse, proche de ses amis et de sa famille, Jean Daligo a aussi été un résistant de la toute première heure, arrêté dès le 31 août 1941. Un homme épris de liberté, au point d'en perdre la vie.
Épisode 2, un mystérieux caméléon.
Qui êtes-vous vraiment, monsieur Daligo ? Homme de Dieu ? Totalement. Homme des arts ? Assurément. Agent secret ?
S'il est arrêté, c'est aussi parce qu'il était connu.
Père Pascal Marie, curé de Honfleur.
Ceux qui étaient arrêtés en 1941, donc vraiment au début de l'occupation, c'est parce que, sans doute, ils travaillaient pour le renseignement.
Parler de zone d'ombre pour Jean Daligo est un euphémisme. Et ça commence dès son jeune âge. 1917, tout juste adulte, le voilà mobilisé pour la Syrie puis la Libye alors que la Première Guerre mondiale fait rage depuis 3 ans. Instituteur dans une école militaire, agent du chiffre aussi, que faisait-il précisément ? Codait-il des messages secrets ? Décodait-il ceux de l'ennemi ? Était-il au premier plan ou en retrait ? Jean Daligo aime parler, mais il ne dira jamais un seul mot à ses amis de son expérience auprès de l'état-major.
L'abbé Daligo, qui avait une connaissance assez exceptionnelle de différentes langues, qui était foncièrement intelligent, pouvait aider évidemment le gouvernement à casser certains codes allemands, sachant en plus que l'abbé Daligo avait été plusieurs fois en Allemagne.
Les voyages, justement. La guerre de 14-18 est terminée, mais Jean ne rentre pas en France, pas aussitôt. 2 années entourées de brouillard. Il se serait envolé pour l'Allemagne, puis la Tunisie et enfin l'Égypte. Goût du voyage, armée d'occupation ou formation au sein des services secrets. Il ne reviendra qu'en décembre 1921 au séminaire de Bayeux. Il parle allemand. Et il passera de nouveau outre-Rhin à 2 reprises dans les années 30.
Donc il avait vu la montée du nazisme et était resté aussi en lien avec de nombreux opposants au nazisme. Il en fait même venir un au presbytère de Landon. Donc bah voilà, en plus un prêtre, on peut imaginez qu'il pouvait un petit peu rentrer partout, passer partout, avait donc de bonnes raisons de pouvoir être un des premiers opposants à l'occupation allemande.
L'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas ? Une chose est attestée, en 1941, Daligo est vicaire à Vierville. Un an que les Allemands occupent le pays, l'abbé tient des réunions d'information avec les jeunes gens du diocèse. Sur le papier, ils font le tour de questions religieuses. En réalité, Ils mènent une propagande anti-nazie et leur expliquent même le déroulement des opérations militaires. Dans les années 30, Daligo parcourt son diocèse de bout en bout. Il va aussi à Paris, il franchit le Rhin, il franchit même l'Atlantique. C'est ce qui s'appelle être baroudeur. Mais encore faut-il avoir du temps pour vadrouiller autant. Nous sommes en 1937 et nous voilà face à l'un des plus grands mystères de l'énigme Daligo.
Certes, il devait être un curé atypique de Landon, mais en soi, ça devait quand même bien passer. On n'a pas de mauvaise réputation. Et puis tout d'un coup, il quitte cette paroisse pour venir habiter chez sa mère. Et là, on a toutes les périodes jusqu'à la déclaration de guerre où il habite chez sa mère comme prêtre habitué. Donc c'était vraiment déchargé de tout ministère. Et en effet, on peut légitimement se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi un prêtre dans la force de l'âge, il a à peine 40 ans, se retrouve chez sa mère ? Et de découvrir que sur son livret militaire, il y a des voyages à l'étranger.
Jean est libre. Il est surtout disponible. En avril 1937, il embarque au Havre avec son frère René, direction la Grosse Pomme. Pendant 6 mois, ils vont aller aux États-Unis, au Canada, en passant par Cuba et Haïti. Était-il question de simples vacances ? Peut-être qu'il cherchait à s'y installer. Peut-être aussi que Jean était occupé par autre chose à New York.
Alors c'est officiellement un voyage d'agrément, hein, sauf que à partir du moment où un voyage d'agrément est inscrit sur un livret militaire, ce n'est plus un voyage d'agrément. Et par le témoignage de son frère, on sait que Jean Daligo va souvent visiter des musées. Il y va même très très souvent, et si bien que le frère commence à avoir marre de passer ses journées dans les musées. Et en fait, on peut supposer que ce n'était pas que pour visiter aller voir des toiles. C'était aussi des lieux de rendez-vous, ça c'est clair. Ce qui est sûr, c'est que d'abord cette date du 31 août 1941 interroge, puisque en août 41, au niveau des réseaux de résistance, c'est encore en état embryonnaire. Il y a peu de résistance. Il y en a sur Paris. Et on est à peu près sûr qu'en effet, l'abbé Daligo avait été contacté par l'armée des volontaires et avec aussi les réseaux du musée de l'Homme.
Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale.
Daligo n'est pas seul.
J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
4 mois après l'appel du général de Gaulle, au 155 boulevard Saint-Germain à Paris, se trouve un bar, la Reine Blanche. Des hommes et des femmes sont attablés. C'est ici, en octobre 1940, que naît l'un des tout premiers réseaux de résistance, l'armée des volontaires. Ce réseau est présent dans la capitale, il l'est aussi dans la Somme, le Bordelais, les Pyrénées ou encore dans le Calvados. En 1940, Jean Daligo est curé à Villerville. Avec 2 camarades, ils vont fonder un premier noyau appelé à devenir l'antenne calvadosienne de cette armée des volontaires. Joseph Blanchard, directeur de l'école communale, athée convaincu, membre de la SFIO et pilote d'avion. Louis Maussan, patron d'un café-bureau de tabac situé à 2 pas de l'église.
Alors, ce qui est clair, c'est que l'abbé Daligo est un artiste, mais aussi un mécanicien. Donc il va dans tout ce bouillonnement intérieur qu'il peut être. Il va construire un avion, il va vouloir construire un avion, il va construire un bateau, il va se reconstruire une voiture. Et aussi, il répare d'innombrables postes. Et donc, on a un témoignage d'Yvonne Guégan qui racontant qu'elle a été chez dans sa chambre qu'il a chez sa mère. Elle a vu plein de postes. Elle n'a pas compris exactement ce que c'était, mais enfin, c'était des postes émetteurs, évidemment. Donc, en effet, on a vraiment sans doute un Jean-Daligo qui est espion, qui écoute. En plus, comme il comprend l'allemand, on peut imaginer qu'il a ce lien. Et il va aussi être en lien avec un autre personnage, alors qui est assez particulier. Et là aussi, qui est très étonnant, c'est Hopper. Voilà, l'agent secret Hopper.
Hopper, John Hopper, un nom énigmatique, gangster pour les uns, héros pour les autres. En temps de guerre, les nuances de couleur peuvent parfois se diluer. Cet Anglais installé à Caen va être hissé au rang de leader du groupe de la résistance locale. La bande à Hopper va mener plusieurs opérations à partir de novembre 1940, actes de sabotage, provocation au nez et à la moustache de l'occupant nazi, distribution d'un journal clandestin, lien avec le réseau depuis Paris, et même jusqu'à tuer le chef de la sûreté de Caen. Daligo reste dans l'ombre, bien qu'il pourrait avoir fait partie de certaines opérations.
C'est compliqué, hein. C'est un homme mystérieux, hein, qui, j'évoquais l'art, voilà, il va souvent à Paris, par exemple. Il rencontre à ce titre tous les peintres de Montmartre, etc. Enfin, il a vraiment une, pour un prêtre, un petit prêtre curé dans le diocèse de Bayeux, c'est vrai que ça dénote et ça détonne quand même, hein, d'avoir quelqu'un qui va régulièrement comme ça à Paris, qui va à ce qu'on appelait chaumière. C'était des rendez-vous de peintres où on peignait des nus. Donc forcément, il avait une chambre dans un hôtel à Paris, ce qui choquera beaucoup d'ailleurs son frère, René.
Et si toute cette agitation servait aussi à déguiser son identité? Il est en mouvement tout le temps. Son ami Yvonne s'en fait l'écho. Daligo déboule de temps à autre à la pharmacie Guégan, comme la fois où il a un besoin urgent d'une machine à écrire, pour mettre sur papier ses poèmes, paraît-il. Une autre fois, il vient confier 6 toiles qu'il avait peintes à l'huile. Nous sommes alors en août 41, l'étau se resserre sur la bande Hopper. Peut-être que Jean savait, il lâche à Yvonne, « S'il devait m'arriver quelque chose, faites-en ce que bon vous semblera. » Bonsoir. Et de repartir la nuit tombée sous sa cape.
Il est donc arrêté pour fait de résistance le 31 août 1941. Il est arrêté parce qu'il était connu. Je vous parlais de ces deux autres résistants qui ont été arrêtés à Villerville, pratiquement avec lui. Et Blanchard et Maussan vont être déportés aussi, nuit et brouillard, et vont être exécutés avec eux tous ceux qui, de façon une autre, pouvaient être liés avec ce petit réseau de résistance et aussi avec Hopper. Daligo, lui, va être maintenu en vie. Lorsque René Daligo pourra aller voir son frère avant sa déportation, il interrogera évidemment les Allemands pourquoi ils ont arrêté son frère et... qu'il recevra lui dira « Mais votre frère a beaucoup travaillé contre nous. »
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront.
Ladies and gentlemen, we may be approaching a fateful hour. All night long, bulletins have been pouring in from Berlin, proclaiming that D-Day is here.
And of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all.
Du sanglot long des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
L'abbé Jean Daligo, Peindre contre la barbarie, un podcast RCF documenté grâce au livre de Christian Dorière intitulé « L'abbé Jean Daligo, un peintre dans les camps de la mort » et avec l'interview du père Pascal Marie, curé de Honfleur.